Voilà, bah écoutez, bonsoir. Nous sommes heureux de voir que vous avez bravé les difficultés de transport pour nous rejoindre pour cette soirée annuelle que nous consacrons donc à Sources Chrétiennes, à la présentation des volumes de Sources Chrétiennes, et particulièrement, enfin, et chaque année, nous choisissons un volume. Et donc, cette année, comme c'est annoncé, nous avons choisi le De Anima de Tertullien. Mais si vous connaissez Paul Mattei, vous voyez bien que Paul Mattei n'est pas là. C'est-à-dire qu'il vient d'Avignon, et donc, c'était pas possible, quoi. Il n'a pas pu venir. D'où, effectivement, bien sûr, il m'a envoyé son texte, donc je peux lire son texte, mais je ne pourrai pas répondre à sa place aux questions. Bon, donc, c'est vrai que nous avons une petite incertitude. Vaut-il, de toute façon, on a prévu une présentation des autres volumes de la collection, une présentation un peu étendue grâce à Guillaume Badi. Et notre question, simplement, je vous la pose, et on va trancher rapidement, c'est de savoir si nous nous contentons de juste présenter sommairement le De Anima de Tertullien en une dizaine de minutes, en gros, et sachant qu'ensuite on présente les autres volumes, ou si nous faisons la présentation complète, mais auquel cas vous n'aurez pas Paul Mattei, parce que sinon on peut éventuellement remettre, Paul Mattei serait prêt à venir au mois de janvier, quand les transports seront rétablis. La soirée, je vous annonce le déroulement de la soirée, donc conformément au programme initial. Donc, dans un premier temps, nous aurons une présentation générale du volume, et donc dans cette perspective, je lirai le texte que m'a envoyé Paul Mattei. Dans un second temps, je donnerai la parole à Laetitia Ciccolini, qui parlera plutôt du statut et des usages de la Bible dans le De Anima de Tertullien. Nous aurons une brève discussion et ensuite nous aurons un temps substantiel pour la présentation des autres volumes par Guillaume Badi, sachant que donc il y a 7 autres volumes parus cette année. Je dis 2 mots pour présenter Paul Mattei avant de prendre la parole à sa place. Donc il est professeur émérite à l'Université Lumière Lyon 2 et professeur invité dans plusieurs universités, notamment en Italie, en particulier à l'Augustinianum à Rome. Bon, il est bien connu pour ses travaux d'édition, de traduction et de commentaires de traités anciens, et tout particulièrement de Tertullien. Donc il a donné l'introduction, le texte critique, la traduction et le commentaire du traité sur le mariage unique de Tertullien, paru donc dans Sources Chrétiennes. Il a aussi collaboré au traité de Tertullien qui s'intitule « Le voile des vierges ». Là, il a fait la traduction, c'est sur ce chrétien numéro 424, pour le traité de Cyprien, l'unité de l'Église. Donc il a collaboré au volume, et là il a proposé les apparats, les notes, et les appendices et l'index. Je signale par ailleurs, outre ses travaux dans Sources Chrétiennes, sa collaboration à un volume du Corpus Christianorum paru en 2016, auquel d'ailleurs Laetitia a aussi collaboré. Sa collaboration également à l'entreprise du Contre-Faust, à la traduction du Contre-Faust d'Augustin, qui paraît aux études augustiniennes. Un premier volume est paru, un deuxième volume va paraître de façon imminente, plus un certain nombre d'ouvrages de synthèse concernant le christianisme antique. Sans plus tarder, je vais donc prendre la parole en son nom, et donc lire son texte. Je voudrais donner ici simplement un aperçu du De Anima, qui est de Tertullien l'une des œuvres majeures et les plus suggestives, l'une des plus longues aussi. En d'autres termes, proposer une introduction, une incitation à la lecture du numéro 601 de la collection des Sources Chrétiennes. Un très beau volume, je me permets de le commenter. Avant tout, un mot de la présente édition. Le livre est dû à 2 auteurs, Hieronimo Leal, de l'Université romaine de la Santa Croce, a écrit dans sa langue, c'est-à-dire l'espagnol, l'introduction et les notes, et il a établi le texte latin avec ses apparats. J'ai traduit, donc bien sûr Paul Mattei, directement en français, le texte latin. Et bien évidemment, il y a eu des corrections, des ajouts, des ajustements, des navettes qui ont été nécessaires pour la mise au point final du volume, et également l'aide indispensable qu'ont à ces occasions apporté Guillaume Badi, ici présent, et Yasmine Echael, qui y a collaboré également. Il faut signaler dans la foulée que tout travail sur le De Anima ne peut que partir de l'édition critique munie d'un commentaire surabondant, environ 500 pages, donné en 1947 à Amsterdam par le philologue néerlandais Jan Hendrik Wassink. Il y a eu une réédition avec quelques ajouts en 2010. Même si, depuis 72 ans, la recherche a progressé et sur un certain nombre de points complétés ou remis en cause les vues de Wassink, son labeur, qui ne laisse dans l'ombre aucune question, demeure une base, ou plutôt une somme indispensable, par rapport à laquelle se positionner tout en l'exploitant. Un mot tout d'abord sur la rédaction et la situation du traité dans la carrière de Tertullien. Le traité est écrit vers 210-211, à la fin d'une assez longue période de paix religieuse en Afrique, aucune persécution entre 203 et 204 et 211-212 ou 211-213 sous le proconsulat de Scapula. Ce sont des années de fécondité littéraire pour Tertullien. Il écrivit, entre autres, les quatre premiers livres de l'Adversus Martianem. C'est l'époque aussi où il s'agrégeait toujours plus étroitement au mouvement montaniste. Et Paul Mattei suppose qu'il est peut-être utile de rappeler ce qu'est le montanisme. Donc, du nom de son fondateur, le prophète Montan, le montanisme est un mouvement né en Asie mineure dans la seconde moitié du second siècle, insistant sur les dons de l'esprit dans une atmosphère d'attente eschatologique exacerbée et de rigueur ascétique accrue. Quelques mots maintenant du genre littéraire et de la structure d'ensemble. Le traité ressortit à un genre bien représenté dans la littérature philosophique, les ouvrages sur l'âme, recherche de psychologie et d'anthropologie. Le représentant le plus connu aujourd'hui, c'est le Peripsuchès d'Aristote. Le traité de Tertullien est le premier écrit sur le sujet dans les lettres chrétiennes, même grecques. Il ne devait pas être le dernier. La caractéristique du genre est que les traités qui ressortissent sont organisés selon un certain nombre de rubriques. Origine de l'âme, nature de l'âme, ensuite ses parties, ses rapports avec le corps, sa destinée, incluant l'interrogation sur une éventuelle transmigration des âmes, métempsychose ou métensomatose, la question de la mort, nature de la mort et le sommeil, etc. Le De Anima de Tertullien suit grosso modo ce schéma et s'attache à résoudre de manière systématique les difficultés que fait naître chacune de ces rubriques. Un mot maintenant de l'objectif du traité, de ses sources et de son style. En réalité, même s'il appartient par ses affinités génériques à la littérature philosophique, le De Anima n'est pas un traité philosophique. Certes, il se fait l'écho de nombreuses opinions philosophiques et les discute, avec âpreté et ironie. Cependant, la polémique au-delà des philosophes et à travers eux vise, et souvent explicitement dans le cours de l'œuvre, les hérétiques de type gnostique, en particulier les Valentiniens, et d'autres encore, les Carpocratiens, Simoniens. Sans compter les martionnites, qui ne sont pas des gnostiques stricto sensu. En règle générale, dans le De Anima, Tertullien ne dispute contre les philosophes que parce que ceux-ci sont les inspirateurs des hérétiques, sur l'âme, comme aussi sur bien d'autres aspects, dont, par définition, le De Anima ne dit rien. sa thèse de Tertullien, c'est que la philosophie alimente l'hétérodoxie. Plus exactement, Tertullien a en ligne de mire Platon. En ceci que Platon est, dit-il, le fournisseur des hérétiques, leur comme condimentarius, littéralement leur épicier. Sur deux points principaux. Premier point, les divisions de l'âme, ou ses parties, selon Platon, seraient à l'origine de la tripartition valentinienne, la distinction de l'humanité en trois races étanches, les iliques, les psychiques et les pneumatiques. Deuxième point, l'âme et le corps seraient des étrangers l'un pour l'autre. On comprend en quoi, sur ces deux points principaux, l'hérésie platonisante heurte l'orthodoxie. Elle nie la liberté, elle déprécie la création matérielle. Il faut ajouter que l'appariement philosophie, et plus spécialement philosophie platonicienne et hérésie, que nous voyons à l'œuvre ici, est un lieu commun de l'hérésiologie patristique. Contre les dangers du platonisme, Tertullien cherche un allié dans le stoïcisme, Sénéca saepe noster. Nous y reviendrons. Le De Anima, défense et illustration de l'orthodoxie, ou de ce que Tertullien juge comme étant l'orthodoxie, se trouve être de la sorte un écrit anti-hérétique et un écrit de nature théologique. Évidemment, le mot est employé ici par anachronisme, car comme on le sait, la distinction philosophie-théologie, telle qu'on la comprend depuis le Moyen-Âge classique, n'est pas opératoire chez Tertullien, pas plus que dans le reste de la patristique. J'en viens aux sources du traité. Le substrat philosophique conduit à évoquer les sources du De Anima. Je laisse de côté l'imprégnation biblique, dont il sera parlé tout à l'heure. Je laisse aussi de côté la présence de la littérature patristique antérieure, les apologistes, avec Justin en tête, et Irénée. J'insisterai sur la présence des philosophes et des médecins. Les philosophes. D'abord Platon et la tradition platonicienne, la tradition stoïcienne, nous en avons déjà dit un mot. Mais on trouve aussi profusion de références à toutes les écoles philosophiques, depuis les présocratiques et Pythagore, profusion de noms, profusion d'allusions à tel ou tel point de doctrine. À côté de la philosophie, on a la médecine, sœur de la philosophie, selon l'expression de Tertullien, et qui, s'occupant du corps, est compétente, déclare Tertullien, pour étudier celle qui est l'hôte du corps et qui est liée à lui, à savoir l'âme. Là encore, profusion de références aux diverses écoles médicales, profusion de noms, d'allusions à tel ou tel point de doctrine ou de pratique, souvent violemment dénoncées, par exemple l'embryotomie ou la vivisection humaine. Cette double profusion soulève une question. D'où vient l'étourdissante érudition, largement et complaisamment étalée de Tertullien? Les savants modernes s'affrontent là-dessus à perte de vue. Pour résumer, en très gros, on peut proposer le bilan suivant. Tertullien a certes beaucoup lu, et entre autres, il a dû prendre connaissance directement et en grec de quelques dialogues platoniciens. Il connaît aussi pour les latins, évidemment, Cicéron, Varron, Lucrèce, Sénèque, Apulée. Mais comme souvent chez les anciens, c'est la même chose 2 siècles plus tard pour Jérôme, tant de science est souvent de seconde main. Emprunté à des manuels, à des doxographes, on notera que beaucoup lui vient d'un médecin célèbre d'époque impériale, dont un traité sur les maladies féminines nous est encore accessible, Soranos d'Éphèse. Le contenu érudit et polémique détermine une couleur ou une manière, un style, avec ses opacités. Le traité est hérissé de noms. Il est jalonné de raisonnements techniques, et ses raisonnements sont fréquemment marqués par le raffinement dialectique, voire le subterfuge héristique ou sophistique, la subtilité des argumentations, la vivacité des réfutations, souvent elliptique et servie par une écriture tendue et une langue qui affectionne les néologismes. Le De Anima, pour ses motifs, jette une lumière à la fois éblouissante et déroutante. Plus encore que d'autres œuvres de Tertullien, il constitue un objet littéraire étrange, séduisant et irritant. Mais ce n'est pas qu'un objet littéraire. Nous en venons donc aux motifs principaux et aux problèmes théologiques majeurs. Motifs principaux. Avec la tradition chrétienne, Tertullien affirme que l'âme est une créature. Elle n'est pas éternelle, au sens platonicien, c'est-à-dire sans commencement ni fin. Avec les stoïciens, Tertullien soutient que l'âme est unitaire. Elle n'a pas de partie, elle a des puissances et des fonctions. L'âme est corporelle. Il faut insister sur ce dernier point qui surprend. Il ressortit à l'ontologie stoïcienne. Tout ce qui est, est corps. Les incorporels, la voix par exemple, ne sont pas au sens précis. Dans le langage de Tertullien, corpus équivaut en fait à substance, plus exactement à substrat, hypokaimenon. Il n'équivaut pas à matière. À ce titre, tout est corps, Dieu compris. Évidemment, il y a un contresens qu'on fait souvent sur le prétendu matérialisme de Tertullien. Il est vrai néanmoins que s'agissant de l'âme, il y a peut-être chez lui de l'ambiguïté. L'âme qui est corps a une certaine consistance, comme de l'air, et une certaine couleur, diaphane. Elle se répand dans le corps comme un liquide dans un vaisseau, ou une pâte très subtile dans un moule dont elle épouse les contours. Cette doctrine de base s'accompagne de prises de position sur des problèmes théologiques majeurs. Nous en retiendrons. 3. D'abord, Tertullien est traducianiste. Il pense que, comme le corps, l'âme naît de l'union sexuelle des parents, de telle façon que toutes les âmes descendent d'Adam et Ève. Deuxième point, il enseigne, de manière homogène à ce qui précède, que toutes les âmes issues d'Adam hérite, sinon de sa faute, du moins de la mort, de l'infirmité et de l'esclavage à l'égard de Satan, que la faute d'Adam a introduit et que les péchés personnels des adultes viennent en quelque sorte ratifier. Il professe ainsi une croyance en ce que l'on peut déjà appeler, non sans raccourci, péché originel. Corollairement, il affirme pour les adultes la nécessité du baptême, en tant que celui-ci lave, tout à la fois et de manière indissoluble, de la faiblesse héritée et des péchés qu'il actualise. Le cas des enfants est différent. Ils n'ont pas de péché personnel, si bien que Tertullien refuse le pédobaptisme. Les petits des chrétiens sont purifiés jusqu'à l'âge de raison par la foi des parents. Des autres enfants, l'Africain ne se soucie pas. Troisième problème théologique, la mort et l'eschatologie. Et cet ensemble est complexe. La mort est définie classiquement comme séparation de l'âme et du corps. Elle n'est pas stricto sensu naturelle. Elle est, je l'ai dit, le fruit du péché d'Adam. Mais elle est devenue comme une seconde nature qui se superpose à la première. La conception chrétienne de la nature de l'âme exclut radicalement la métempsychose ou métensomatose dans le corps d'un autre homme, ou à plus forte raison, dans le corps d'un animal. À la mort, seules les âmes de martyrs montent au paradis. Toutes les autres sont séquestrées sous terre aux enfers. lieu de repos, refugium, dans le sein d'Abraham, pour les justes non-martyrs, lieu de punition pour les pécheurs, en attendant la résurrection. Bien, d'autre part, est millénariste. Il pense que le Christ reviendra dans la gloire pour établir sur la terre, avec les seuls justes ressuscités en leur corps, martyrs et justes résidant jusque-là dans le sein d'Abraham, un royaume terrestre de 1000 années, dit-on d'habitude, mais Tertullien, en fait, n'en spécifie pas la durée, et donc ce règne de 1000 ans ou autre a lieu avant le jugement général. De la combinaison de la croyance au refrigerium, dans le sein d'Abraham, et de la croyance au règne terrestre du Christ, résulte une croyance en ce que l'on pourrait nommer purgatoire. Les âmes justes, résidentes provisoires dans le sein d'Abraham, ne se sont peut-être pas acquittées de tous leurs péchés, que l'on dira véniels selon un terme moderne, mais non déplacés. Elles les paient non pas d'un bonheur moindre, mais d'un retard dans la résurrection en vue du millénaire. Retard plus ou moins long à proportion de la gravité des manquements à racheter. Il y aurait d'autres problèmes théologiques à évoquer. En voici par exemple deux. La question de la rationalité et de la licéité des passions. Avec toutes les répercussions de cette question à propos de Dieu et du Christ. C'est sous ce dernier rapport la question qui a beaucoup agité la patristique de la colère de Dieu. Autre question largement traitée, celle de l'extase et de la nature et des manifestations de ce charisme. Un point important pour le Tertullien montaniste, lequel justement, dans le De Anima, rapporte à titre de preuve en faveur de ses idées les visions d'une femme qui, pendant la messe, a des visions et en fait le compte-rendu après. Entre autres, la vision d'une âme séparée de son corps, elle-même corporelle et transparente. En guise de conclusion, il serait oiseux de s'étendre trop longtemps sur l'intérêt à nos yeux du De Anima, d'une part à cause de tout ce qu'il retient de détails érudits précieux pour les historiens de la philosophie et de la médecine, et de la culture en général, d'autre part, en raison de la richesse des interrogations qu'il multiplie et des solutions qu'il apporte ou prétend apporter, voire en particulier ses discussions sur la métempsychose. Or, on sait combien la métempsychose tracasse encore, sous l'influence d'on ne sait quelle théosophie extrême orientale et sur la base d'une ignorance des données les plus fondamentales de l'eschatologie chrétienne, nombre de nos contemporains. Il semble plus utile d'évoquer l'influence que ce traité a eue ou pu avoir dans l'Antiquité. Vassink est plutôt réservé quant à l'importance de la postérité d'un ouvrage dont la lecture est de fait difficile. J'attirerai cependant l'attention sur trois auteurs ou ensembles d'auteurs par ordre d'importance. Premièrement, Jérôme le connaît. Deuxièmement, les auteurs des 5e, 6e siècles qui ont écrit pour certains d'entre eux des traités De Anima et disputés sur la corporealité de l'âme ou sa spiritualité le connaissent aussi. Il s'agit par exemple de Faust de Ries, Clotien Mamert ou Cassiodore. Augustin enfin et surtout, sur deux plans connexes, mais il en est d'autres. Augustin a toujours hésité sur la question de l'origine de l'âme. Il serait volontiers créationniste, partisan de la théorie devenue plus tard dogme de l'Église et selon laquelle, au moment même où l'homme et la femme s'unissent sexuellement et conçoivent le corps, Dieu crée l'âme immédiatement. Mais il ne peut s'empêcher d'estimer que le traducianisme explique plus facilement la transmission du péché originel, si celle-ci s'opère, comme il l'enseigne, par la génération. Il n'a pas pu ne pas rencontrer sur cette route Tertullien. Parallèlement, il n'est pas impossible que, certes, avec moins d'intensité que d'autres sources, Cyprien, Ambroise, Tertullien ait joué un rôle dans la Genèse de la doctrine augustinienne sur le péché d'Adam et ses suites. Ces possibles échos des idées défendues avec vigueur dans le De Anima achèvent, je crois, de prouver l'importance du traité. Et pour finir, pour ne pas laisser le public sur l'idée d'une rédaction aride et technique, Paul Mattei souhaite qu'on lise quelques pages brillantes et enlevées qui parviennent, même en traduction, la traduction est celle de Paul Mattei, à suggérer quelque chose du génie de Tertullien en tant qu'écrivain, et par là, à en conseiller pour le seul plaisir la lecture. Alors, le premier extrait qu'il a choisi est tiré du chapitre 2. Il montre que les Tertulliens montrent que les philosophes ont à l'aveugle parfois rencontré la vérité. Bien sûr, nous le nierons pas. Il est arrivé aux philosophes d'avoir pensé comme nous. C'est encore un témoignage en faveur de la vérité que sa survenue fortuite. Parfois aussi, en plein orage, quand se brouillent les frontières entre ciel et flot, le bateau, par un heureux hasard, se jette au port. Parfois aussi, dans les ténèbres, par une chance aveugle, on trouve une entrée et une sortie. Au surplus, la nature suggère que bien des choses sont issues du sens commun dont Dieu a décidé de doter l'âme humaine. Donc, je pense que vous avez apprécié l'image. Un deuxième texte qui est aussi une image, c'est l'image de l'orgue hydraulique que Tertullien utilise pour essayer de rendre compte de l'unité de l'âme et de la diversité de ses fonctions. Et donc, il s'agit d'un extrait du chapitre 14. Au contraire, de la multitude des membres résulte un corps unique, en sorte que la division même est plutôt cohésion. Regarde le cadeau extraordinaire d'Archimède, je veux parler de l'orgue hydraulique. Tant de membres, tant de parties, tant d'assemblages, tant de chemins pour les voix, tant de possibilités pour les sons, tant de relations pour les modes, tant d'éclats pour les tuyaux, et tout cela ne formant qu'une masse. De même, l'air qui est pulsé là dans la machine, sous la pression de l'eau, ne sera pas divisé en parties, parce qu'il se distribue à travers ces parties. Il est compact quant à la substance, mais divisé quant à l'opération. Vous voyez, l'image est complexe, mais c'est vrai qu'elle rend raison à la fois de l'unité de l'âme et de la diversité de ses opérations. Et je vais retenir un dernier texte, issu du chapitre 41, sur le témoignage de l'âme et sa venue à la foi. Dieu seul est sans péché, et le seul homme sans péché est le Christ, parce que le Christ est aussi Dieu. Ainsi également, la divinité de l'âme éclate dans les présages du fait de sa vertu première, et la conscience qu'elle est de Dieu se traduit en témoignage. Dieu bon, Dieu voit, à la grâce de Dieu. Pour cette raison, aucune âme n'est sans reproche, parce qu'aucune n'est sans semence de bien. Par conséquent, lorsque l'âme vient à la foi, de nouveau formée dans la seconde naissance par l'eau et la puissance d'en haut, le voile est enlevé de sa corruption antérieure et elle contemple en son plein la lumière qui est la sienne. Elle est également accueillie par l'Esprit Saint, tout comme à son antique naissance, elle le fut par l'Esprit profane. La chair suit l'âme dans ses noces avec l'Esprit, en tant qu'esclave totale, servante non plus de l'âme, mais de l'Esprit. Au mariage heureux, s'il ne laisse pas de place à l'adultère. Je m'arrête là et bon, j'espère que donc vous avez pu réaliser l'intérêt de l'ouvrage. Je rappelle que la traduction de ce texte extrêmement difficile Et le latin de Tertullien est particulièrement complexe et donc est dû à Paul Mattei. Et vous avez pu apprécier la qualité de traduction dans les extraits que j'ai pu lire. Et je voudrais maintenant donner tout de suite la parole à Laetitia Ciccolini en la présentant de quelques mots tout d'abord. Laetitia est maître de conférence Sorbonne Université. Elle est membre statutaire du laboratoire d'études sur les monothéismes, mais bien sûr rattachée, à l'Institut d'études augustiniennes, où elle assure beaucoup d'activités multiples, notamment comme secrétaire de l'association, mais elle s'occupe également de la chronique, elle coordonne la chronica sur Tertullien et Cyprien, et elle est membre du comité scientifique de la revue d'études augustiniennes et patristiques. Ses thèmes de recherche sont multiples, notamment la pseudépigraphie antique, un intérêt pour la transmission et la réception des textes, l'édition des textes, et l'histoire des doctrines philosophiques et religieuses dans l'Antiquité tardive, avec un intérêt particulier pour les textes traitant du martyr et de la virginité. Alors, je voudrais surtout mentionner sa collaboration au volume du Corpus Christianorum, ce qui était un très gros travail, volume consacré à Cyprien et à des pseudo-Cypriens. D'autre part, elle a dirigé un ouvrage collectif qui s'intitule Réception, avec d'autres, Réception antique, lecture, transmission, appropriation intellectuelle. Et je suppose qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez peut-être lu sa traduction d'Irénée de Lyon, le livre 3, dans le volume de la Pléiade, Premiers écrits chrétiens, sous la direction de Bernard Poudron, Jean-Marie Salamito et Vincent Zarini. Je vais lui donner la parole donc sur Tertullien, et donc elle doit nous parler du statut de la Bible dans ce traité. Moi j'éteins.
Bien. Alors, Paul Mattei, par la voix d'Isabelle Bochet, a brossé le contexte intellectuel du traité et a bien montré, je crois, combien Tertullien fut novateur par l'objet de son traité. Alors, si j'ai choisi de dire quelques mots du statut de la Bible et de son usage, c'est en raison, finalement, des lignes de force de la bibliographie sur le De Anima. Pour résumer, le De Anima a été étudié des trois points de vue suivants, pour dire les choses de manière un peu grossière. Comme une pièce centrale de la réflexion anthropologique de Tertullien, d'autant plus importante que d'autres écrits de Tertullien concernant cette question ne nous sont pas parvenus. Deuxième axe des recherches, le De Anima a aussi été exploité pour les exposés qu'il comporte sur des points doctrinaux précis, important pour Tertullien, mais également d'un point de vue historique dans le développement de la pensée chrétienne. Il en a été question tout à l'heure. Enfin, davantage que d'autres textes de Tertullien, le De Anima a suscité l'intérêt pour sa richesse doxographique. Les spécialistes de Tertullien, mais aussi des historiens de la philosophie, de la médecine, se sont intéressés aux sources médicales et philosophiques que Tertullien a exploitées directement ou indirectement. Or, les éditeurs scientifiques du volume font remarquer à deux reprises, au moins, que la richesse doxographique du De Anima ne doit pas occulter l'importance de la Bible. Ce point est souligné d'abord à propos de la structure de l'œuvre. S'il est possible de déceler dans le traité une organisation qui relève de la tradition philosophique, notamment platonicienne, le contenu du traité est fondé sur l'écriture. Et c'est une différence majeure qui empêche de ramener purement et simplement le De Anima à des schémas d'école. Plus loin, à propos des sources de Tertullien, il est rappelé que les sources sont avant tout scripturaires. Et cette priorité, elle est d'abord quantitative. Effectivement, on peut être un peu étourdé par la profusion de noms de médecins, de philosophes, que parfois on n'a pas gardé en tradition directe, mais quantitativement, ce qui domine, ce sont les références scripturaires. Et dans une note, les auteurs ajoutent « Nous souhaitons attirer l'attention sur ce fait, parce qu'habituellement, dans les études sur les sources, on a tendance à le passer sous silence, tandis que les auteurs classiques passent au premier plan. Il m'a donc paru intéressant de tirer ce fil et j'envisagerai successivement le statut de la Bible, ses utilisations et en guise de conclusion, pour ne pas être trop longue, je dirai un mot de l'articulation entre exégèse et philosophie sur des problèmes doctrinaux précis. Alors, le statut de la Bible, Tertullien propose ici une anthropologie fondée sur la Bible. C'est un projet qui est neuf. La question de l'âme est traitée depuis longtemps en philosophie, en médecine. Tertullien en est conscient et c'est ainsi qu'il justifie le débat inévitable qu'il engage avec les philosophes et les médecins. Il dit au chapitre 2 que sur ces questions-là, surtout, il va devoir croiser le fer avec les philosophes. Débat d'autant plus nécessaire que ce qui caractérise pour Tertullien les vues des philosophes, c'est leur diversité, voire leur contradiction. Un autre facteur à la confrontation inévitable, sans doute le plus important, il en a été question, à ses yeux, la philosophie est le ferment de l'hérésie, et ce qui disqualifie les hérétiques, c'est qu'ils empruntent aux philosophes. Sur la question de l'âme, philosophes et médecins pouvaient apparaître, y compris aux yeux de chrétiens, comme des spécialistes. Dans ces disciplines, il y a une tradition scientifique qui confère une légitimité intellectuelle. Et c'est contre cela que s'élève Tertullien, en installant une opposition entre deux types de savoir, des recherches purement humaines, philosophes, médecins et donc par ricochet les hérétiques, et une connaissance supérieure qui repose sur la révélation. Alors c'est une idée qui est banale notamment dans la polémique contre les païens. Mais rappelée dans un traité sur l'âme, l'opposition prend une résonance singulière puisque c'est énoncer le caractère novateur de l'entreprise. En écrivant un traité qui porte spécifiquement sur l'âme, Tertullien investit un champ qui pouvait apparaître comme étant d'abord celui de la philosophie. L'opposition entre savoir humain et savoir qui découle de la révélation est rappelée dès le début. À la fin du premier chapitre, Tertullien évoque la figure de Socrate. Alors Socrate, c'est l'incarnation de la sagesse pour les philosophes, finalement, quelle que soit, leur obédience, mais aussi dans la pensée commune. Socrate est communément le plus sage des hommes, c'est ainsi que le qualifie Tertullien. Et donc, il évoque Socrate au moment de sa mort, dans le chapitre 1 du De Anima, en ces termes. Aussi, toute la sagesse de Socrate était-elle, à ce moment-là, le fruit d'une affectation calculée de sang-froid, plus que d'une confiance en la vérité découverte. En effet, qui a jamais découvert la vérité sans Dieu, qui a jamais connu Dieu sans le Christ, qui a jamais reconnu le Christ sans l'Esprit Saint, qui a jamais obtenu l'Esprit Saint sans le sacrement de la foi. Pour le dire vite, Socrate est étranger à la révélation, il lui est même antérieur chronologiquement, comme c'est précisé par la suite. La puissance chrétienne n'avait pas encore produit ses titres. Au terme de cette évocation, Tertullien oppose le christianisme, qu'il qualifie de sagesse apprise à l'école du ciel, aux conjectures humaines, et il emploie le terme praesumo. Souvent, les mots de cette famille lui servent à caractériser justement ces efforts humains et qui ne sont qu'humains, précisément. Alors, que signifie s'instruire auprès de Dieu? Sans surprise, c'est lire et interpréter les Écritures. Par exemple, au chapitre 43 du De Anima, « Si tu t'instruisais auprès de Dieu, tu verrais que la source de la race humaine, Adam, etc. » Et il commente la Genèse. Parmi les mots qu'il utilise pour évoquer la Bible ou des passages de la Bible, j'en relève deux. « Instrumentum »,« instrumenta », qu'il emploie au pluriel, qui lui sert à désigner un dossier scripturaire des passages de l'Écriture. Par exemple, au chapitre 11, il rassemble un dossier qui prouve la distinction entre âme et esprit. Et paratura, l'Écriture est l'appareil de la révélation. Alors, énoncer cela, ça suffit peut-être pour des chrétiens, pas pour des philosophes. Et Tertullien est amené à réinvestir des arguments chronologiques qui sont courants chez les apologistes et que lui-même a développé plus longuement, par exemple, dans son apologétique. Alors, il ne s'étend pas sur le sujet, mais ses arguments sont importants pour étayer cette opposition entre la Bible et d'autres écrits qui passaient pour avoir une grande autorité. Alors, si Socrate est antérieur au Christ, les philosophes sont postérieurs à l'Ancien Testament, qui constitue le premier dévoilement de la vérité. Et il y a une expression importante pour qualifier l'Ancien Testament au chapitre 2, c'est une écriture prophétique, authentique, née avec le monde même. Et défendre, si on défend l'antériorité de l'Ancien Testament, il devient possible que des philosophes lui aient emprunté des bribes de savoir. C'est une explication classique chez les apologistes, des coïncidences décelées entre doctrine chrétienne et philosophie, et c'est une possibilité que Tertullien envisage dans la suite de son propos. À cette défense de l'autorité de la Bible est jointe une disqualification des autres écrits qui passe par l'explication de leur origine. Ces autres écrits sont imputés à une recherche humaine et on trouve aussi l'idée suivante, l'idée que les philosophes ont introduit des ouvrages que les chrétiens condamnent car ils y reconnaissent des écrits apocryphes. Donc ils s'inscrivent dans une lignée qui est celle des pseudo-prophètes, qui est celle aussi des anges rebelles, de la Genèse relue par le livre d'Enoch. Et le passage s'apparente au développement qu'on trouve chez certains apologistes qui imputent la philosophie aux anges déchus. Dans son traité sur la toilette des femmes, Tertullien impute à ces anges rebelles aussi le maquillage, en fait, toute la parure féminine. Donc on le voit, Tertullien reprend plusieurs explications classiques chez les apologistes pour marquer, pour rendre sensible cette différence de statut entre la Bible et les recherches des philosophes et justifier l'autorité qu'il reconnaît à la Bible. Le statut dévolu à l'écriture oriente dès lors le traitement du sujet. L'écriture délimite le champ de la recherche légitime, elle sert de norme pour la discussion, elle commande la structure du texte. Donc la Bible fixe les limites de l'investigation. De manière significative, Tertullien rappelle cela aux bornes de son propre traité. Alors ça revient plusieurs fois dans les deux premiers chapitres. Je vous donne une citation. « Il n'est pas permis de trouver au-delà de ce que Dieu enseigne. » Et l'édition des sources chrétiennes commente ce passage en indiquant que le passage exprime moins un refus de la raison qu'un appel, qu'une exhortation à puiser directement dans la révélation. Et dans le dernier chapitre du traité, Tertullien oppose en conclusion une curiosité légitime et nécessaire, c'est finalement le résultat de ce qui a suscité sa propre recherche, à ce qu'il appelle la curiosité hors de propos et superflue des philosophes. Mesure de toute recherche, l'écriture fixe aussi la méthode. L'écriture sert de norme, de crible auxquelles sont soumises les affirmations des philosophes. Ce point est affirmé à plusieurs reprises. Par exemple, au chapitre 2, on ne doit rien recevoir qui ne consonnerait pas avec l'écriture prophétique. L'énoncé le plus clair, me semble-t-il, se trouve à la fin de ce chapitre 2, lorsque Tertullien explique qu'il va ramener les questions au livre divin, revocare ad dei litteras, ce qui peut laisser entrevoir des convergences possibles, mais aussi leurs limites, et ce qui doit pousser à chercher la nature de ces convergences. Alors, deux exemples de cette méthode. Par exemple, lorsqu'il est question de la corporéité de l'âme soutenue par les stoïciens, après avoir passé en revue les opinions des philosophes, Tertullien allègue Luc 16, les souffrances du mauvais riche. Au chapitre 16 du De Anima, sur la question des parties de l'âme, la Genèse permet de montrer la vérité partielle, seulement partielle, des vues platoniciennes. Et vous le voyez déjà avec ces deux exemples, cette méthodologie a une conséquence sur la disposition du traité. Tertullien décrit lui-même cette structure au chapitre 3. Je vous lis le passage. « Si quelques remugles de philosophie enfument en cette façon l'atmosphère éclatante et pure de la vérité, les chrétiens devront les dissiper, à la fois en frappant les raisonnements dans leurs auteurs, c'est-à-dire dans les philosophes, et en leur opposant les principes du ciel, c'est-à-dire du Seigneur, pour ruiner les uns, ceux qui captivent les païens par la philosophie, et réfuter les autres, ceux qui troublent les fidèles par l'hérésie. Donc il examine d'abord ce qui est appelé par le sujet, les vues des philosophes, avant de faire appel à l'autorité de la Bible. Et toute la partie systématique du traité, celle qui aboutit à une énumération des caractéristiques de l'âme, est organisée de la sorte. Vue des philosophes, épreuve scripturaire. C'est aussi le cas, même si c'est un peu moins systématique, de la partie diachronique du traité. Une telle structure est habituelle chez Tertullien parce qu'elle a une efficacité polémique. C'est ce que souligne le passage que j'ai lu tout à l'heure. Finalement, à chaque catégorie d'adversaires, des armes spécifiques. Et puis, comme cela a été noté, c'est aussi sans doute un héritage des cadres de la rhétorique. Le sujet à débattre, l'âme, amène à considérer les vues des philosophes, ce qui peut s'apparenter aux preuves techniques, tandis que l'écriture est une autorité extérieure que l'on peut assimiler aux preuves extra-techniques. Deux types de preuves qui n'ont pas la même autorité. Tertullien est attentif au choix des mots lorsqu'il parle de l'une et de l'autre. Par exemple, au chapitre 26, pour introduire les preuves scripturaires, il dit « Je vais camper sur nos lignes afin de prouver aux chrétiens, donc probaré, ce que j'ai répondu, respondere aux philosophes et aux médecins. » Vous le voyez, la Bible est partout, réceptacle d'une doctrine à illustrer et à défendre. C'est le cadre de l'enquête, la norme, et elle donne sa structure au traité. J'en arrive maintenant au second point. Quelle herméneutique dans le De Anima ? Alors, les citations, évidemment, ou allusions scripturaires occupent une place non négligeable. Elles ne sont pas choisies au hasard. Pour Tertullien, on ne juge bien d'une chose qu'en remontant à sa source. C'est un mode d'investigation qu'il pratique couramment, quel que soit le domaine. Par exemple, c'est ce qui donne sa structure à son traité sur les spectacles. Pour bien juger d'une chose, il faut en trouver l'origine. Et ça vaut aussi pour l'âme. C'est ce qu'il dit au chapitre 1. Ce que la sagesse chrétienne doit examiner au sujet de l'âme, elle l'expliquera selon les règles de Dieu, certaines que nul ne fait mieux comprendre l'âme que son auteur. Ce raisonnement connaît une traduction particulière ici, dans la place donnée à la Genèse, en particulier à ses trois premiers chapitres. Plusieurs expressions soulignent que les versets de la Genèse permettent de saisir la nature des choses en valeur explicative et normative. Parmi les multiples exemples des formules qui introduisent les versets de la Genèse, j'en retiens une au chapitre 27, les exemples originels sont les plus dignes de foi. Donc, exemple originel, traduit primordi, exempla. Et donc, on trouve ce type de formule à propos de la forme de l'âme, de l'irrationnel dans l'âme, de l'animation de l'embryon, de la création simultanée de l'âme et du corps, du sommeil, etc. Autant de points qui sont l'occasion de rappeler la valeur des commencements et de rechercher donc dans la Genèse une explication. Des textes qu'il cite, Tertullien donne une exégèse littérale. On retrouve dans le De Anima une tendance qui est très nette dans toute l'œuvre de Tertullien. Un grand attachement à l'exégèse littérale que Frédéric Chapeau, dans une monographie de 2009, Virtus Veritatis, langage et vérité dans l'œuvre de Tertullien, a mis en relation avec l'importance que Tertullien attache au langage qui l'élève au niveau de critères de la vérité. Et il montre notamment que Tertullien met à profit un héritage multiple dans lequel la grammaire et la philologie ont un rôle important. Alors un exemple de cette exégèse littérale, eh bien, c'est l'histoire de Lazare et du mauvais riche, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, qui atteste la corporéité de l'âme. Alors il l'introduit ainsi, la corporéité de l'âme, l'heure apparaîtra, donc apparaîtra aux chrétiens clairement dans l'évangile même, aux enfers, l'âme d'un homme souffre, connaît le supplice des flammes, la torture de la soif, implore le soulagement d'une goutte d'eau donnée par le doigt d'une âme plus heureuse. Tertullien pose explicitement une question à propos de ce texte. S'agit-il d'une parabole, imago, un des discours figurés? Je cite, « Tu juges que cette fameuse fin du pauvre en liesse et du riche affligé est une parabole, et pourquoi le nom de Lazare est-il donné si l'histoire n'est pas réelle ? » Avec d'autres auteurs, en particulier Irénée, il admet l'historicité de l'épisode. Il donne comme argument, il n'est pas le seul, que le personnage reçoit ici un nom. Et même pour le cas où il s'agirait d'une imago, ce serait un témoignage, dit Tertullien, sur la vérité, car les mots utilisés sont révélateurs. Il dit « Si l'âme n'avait pas un corps, l'image de l'âme ne prendrait pas l'image d'un corps, et l'Écriture sainte ne mentirait pas en parlant de membres corporels s'il n'existait pas vraiment. » Ce passage montre que même le sens figuré reste arrimé au sens littéral. L'exégèse littérale est attentive aux mots, à un usage que Tertullien considère comme naturel de la langue et aux détails du texte. J'en donne quelques illustrations. L'exemple le plus célèbre, mais qui est développé dans d'autres traités de Tertullien, c'est Genèse 2:7, un texte crucial pour le propos. Et Tertullien note qu'il n'est pas indifférent que le latin est « flavit deus flatum vitae faciem hominis », donc « Dieu insuffla un souffle de vie sur la face de l'homme ». Et il s'en prend à Hermogène qui, dans son texte, lit « pneuma » et non « pnoé » en Genèse 2:7 et Tertullien souligne l'importance du terme de flavit flatum dans le texte biblique. Et il dit « La différence entre l'esprit et l'âme a été bien mise en son jour dans les passages suivants de l'Écriture. » Et c'est à cette occasion qu'on a un dossier de texte qui rassemble des occurrences de flatus et des passages où se lit spiritus ou ses dérivés. Autre exemple, c'est l'attention à la propriété des termes qui permet de savoir où se situent les enfers. Selon Éphésiens 4:9, le Christ est descendu dans les profondeurs de la terre, en latin, in inferiora terrarum. Donc à la question qu'il pose au chapitre 55, où se situent les enfers, il répond en donnant la définition suivante, c'est une vaste étendue dans une fosse sous la terre, dans sa profondeur, un gouffre caché dans ses entrailles mêmes. Cette attention au vocabulaire le conduit aussi à utiliser l'étymologie. L'étymologie de limus, la boue, au chapitre 27, est l'un des exemples que prend Frédéric Chapeau dans son livre de cette utilisation de l'étymologie. Pour étayer ses vues traducianistes, il s'appuie sur le rapprochement entre le mot boue latin, limus, et liquide fertile, liquor opimus. Et ce rapprochement n'est pas l'argument principal, mais finalement vient comme une explication naturelle de la définition qu'il donne. Attention aux mots, attention aussi aux détails de la narration, par exemple à la chronologie. Ève est créée après Adam, ce qui explique que l'embryon de sexe masculin atteigne sa forme la plus complète avant l'embryon de sexe féminin, ce qui rejoint des vues médicales de l'époque. Et donc il note ce détail chronologique dans le récit de la Genèse. C'est enfin à partir de l'exégèse littérale que Tertullien met en œuvre un principe bien connu des pères, la Bible explique la Bible. Il se sert par exemple de l'histoire du mauvais riche pour dirimer une question exégétique relative à la prophétesse d'Endor. Il s'agit de savoir si l'évocation du roi Samuel par la prophétesse d'Endor, qui permet donc à Saül d'apprendre la défaite d'Israël contre les Philistins et sa propre mort, s'agit-il d'une illusion d'origine démoniaque ou est-ce vraiment le prophète Samuel qui se manifeste? Et les auteurs chrétiens sont divisés sur cette question. Et Tertullien, voici comment il commente le problème. Que les enfers ne laissent passer absolument aucune âme. Le Seigneur l'a bien défini par la bouche d'Abraham dans cette fameuse parabole du pauvre qui se repose et du riche qui se lamente. Il a déclaré qu'aucun messager ne peut être dépêché pour nous apprendre ce qui se passe aux enfers, chose que Dieu aurait pu permettre en ce temps-là surtout, afin que l'on crût Moïse et les prophètes. Voilà, donc c'est ce principe qui autorise donc vous voyez qu'ici, son exégèse de cette histoire de Lazare et du mauvais riche, finalement, lui permet de conclure qu'il s'agit d'une illusion démoniaque. Alors, ce principe, la Bible explique, la Bible autorise une exégèse figurée, et évidemment, c'est un texte comme Éphésiens 5, 32, qui va permettre une exégèse figurée de Genèse 2, 23. Par exemple, au chapitre 43, un chapitre qui vise à montrer que seul le corps dort. Aussi bien le repos d'Adam nous apprend déjà à regarder le sommeil comme une image de la mort, car si Adam offrait une figure du Christ, le sommeil d'Adam, c'était la mort du Christ qui devait s'endormir dans la mort, afin que de la blessure de son côté, donc Genèse, pareillement fût façonnée l'Église, Éphésiens 5, 32. L'idéal dans l'introduction, et Paul Mattei dans sa communication, on dit quelques mots de la fortune du traité. Sa tradition manuscrite est médiocre, mais il a eu des lecteurs, notamment parce qu'il a soulevé et traité de manière spécifique et d'un point de vue chrétien un certain nombre de problèmes. Et une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si cette argumentation scripturaire que Tertullien présente comme décisive a eu un impact. Les discussions ultérieures sur certains points doctrinaux peuvent servir de révélateurs, et je vais conclure sur ce point en limitant mes remarques à deux exemples pris à Augustin. Sur la question de l'origine de l'âme, Augustin, c'est une question qu'il n'arrive pas à résoudre, et il est obligé finalement d'étendre très largement le spectre des citations scripturaires examinées pour conclure qu'aucun des versets étudiés n'offre d'argument contraignant, soit pour réfuter le traducianisme, soit pour conforter la thèse créationniste. Et finalement, l'étude de l'écriture débouche sur une aporie. Deuxième point intéressant, deuxième exemple, la discussion sur la corporéité de l'âme suggère également que ce que Tertullien présente comme résultant d'une interprétation littérale, en quelque sorte naturelle, de l'écriture, est en fait conditionné par une épistémologie qui est en grande partie stoïcienne. La question est discutée dans le De Genesi ad Literam, au livre 10, et le développement augustinien, finalement, semble suggérer que c'est moins affaire d'exégèse que de conditionnement philosophique de la pensée. C'est à partir d'un soubassement néoplatonicien qu'Augustin critique la conception de Tertullien de l'âme comme corps. Finalement, le centre de gravité de la discussion n'est pas l'argumentation scripturaire donnée par Tertullien dans son De Anima. Pour Tertullien, l'écriture est un contenu et une norme. Il présente sa lecture des textes comme respectueuse du bon sens, de l'usage naturel de la langue. Il envisage bien des points d'accord avec les philosophes, mais il les explique par l'argument chronologique que j'ai brièvement rappelé, ou par le recours aussi à des notions communes. Pour lui, les points d'accord avec les philosophes renforcent l'autorité de la Bible. Je dirais qu'on n'est pas obligé de le croire sur parole, et quand il écrit que la corporéité de l'âme apparaît clairement dans l'Évangile, c'est comme ça qu'il présente son étude de l'histoire de Lazare et du mauvais riche, on peut penser que le rapport est peut-être inverse, et que le conditionnement stoïcien de sa pensée explique grandement la sélection des versets bibliques et la manière dont il les lit. En l'espèce, il y a un lien entre la corporéité de l'âme et la souffrance de l'âme quand elle est séparée du corps, et c'est pour cette raison que le passage de Luc est pertinent. Dans ce même chapitre, il dit « l'incorporéité ne souffre rien ». Mais Tertullien ne thématise jamais l'idée que le savoir philosophique puisse être un outil pour comprendre l'écriture, et pour cause, parce que c'est la démarche qu'il reproche aux hérétiques. Et là, il faut sans doute rappeler l'importance de la polémique contre les hérétiques, qui explique cette opposition franche qu'il installe entre, d'une part, la révélation écrite, dépôt de la vérité, et les recherches humaines qui peuvent tout au plus l'approcher. Dans un contexte de rivalité intellectuelle, son souci reste avant tout de préserver l'originalité et la spécificité du christianisme.
À Très grand merci, Laetitia, pour cet exposé qui a bien mis en lumière l'importance de la Bible. Et c'est vrai qu'on est toujours, habituellement, quand on parle de ce traité de Tertullien, on est toujours, on parle toujours de la multiplicité des références philosophiques et médicales. Mais il ne faut pas oublier d'abord le rôle déterminant de l'écriture. Alors, je vous propose quelques minutes pour poser éventuellement des questions, surtout à Laetitia, puisque Paul Mattei n'est pas là. Et avant de donner la parole à Guillaume Badi pour la présentation des autres volumes.
Européenne, en espagnol, en italien, etc. Et alors en français, il n'existait au XXe siècle que des traductions partielles de ce traité sur des points précis, l'embryon, le rêve, etc., dans des anthologies en fait. Mais il fallait remonter finalement à la traduction de Genoude au XIXe siècle, enfin que les belles lettres ont réimprimé pour sortir un volume d'Opéra Omnia de Tertullien en ce début de XXIe siècle. Mais donc ça rend d'énormes services que d'avoir enfin en français une traduction scientifique de ce traité, parce qu'on était vraiment mal équipés, enfin les lecteurs francophones et les chercheurs francophones étaient très mal équipés. Donc c'est un immense service que rendent les sources crétaines et les éditeurs scientifiques du volume d'avoir donné cette traduction.
Oui, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Je salue le travail de Jerónimo Leal et de Paul Mattei. Et moi, j'avoue, je ne suis pas spécialiste de Tertullien, donc comme réviseur, j'ai essayé d'être discret. Mais je suis très fier que Laetitia ait pu parler de la Bible dans cet ouvrage, parce que j'ai consacré une semaine entière à utiliser les données de Bible Index. Donc, ce sont les références bibliques qui avaient été recensées par le CADP à Strasbourg, qui se trouvent maintenant dans la base en ligne Bible Index, pour le volume de Tertullien, le De Anima. Et donc, j'ai dû vérifier, regarder les variantes dans les versions anciennes, latines anciennes de la Bible. Et voilà, donc je pense que mettre en avant la Bible, c'était une bonne idée pour ce soir, après ce travail que j'ai dû faire, comme on le fait à chaque fois pour un volume des sources chrétiennes.
Alors, je vous propose peut-être de donner la parole à Guillaume Badi pour la présentation de la collection. Donc, je veux dire en deux mots, mais vous le savez, que et Dominique Gonnet aussi. Donc, Guillaume Badi est au CNRS, est directeur de sources chrétiennes. Et donc, il a en charge, et donc Dominique Gonnet est collaborateur aussi à Sources Chrétiennes. Donc, si tu veux venir t'asseoir.
Je crois que Dominique Gonnet a une très bonne nouvelle à annoncer. Et donc, ce serait dommage de ne pas...
Oui, donc, la vente à 50% de la collection Sources Chrétiennes se poursuit jusqu'au 31 décembre. Donc ça facilite les cadeaux de Noël que vous avez envisagés. En tout cas, moi, je vois des personnes encore qui me disent tel livre, j'aimerais le lire, je n'ai jamais pensé à le lire, ou quel livre vous me conseillez. Bon, comme certains d'entre eux sont particulièrement accessibles, en particulier ceux écrits par les femmes, comme Égérie, Duoda, La passion de perpétuité et de félicité, etc. Donc il reste de très beaux textes. Donc cette vente est toujours possible dans les librairies, aussi bien que sur Internet. Donc vous avez le choix, vous êtes libre. Et même des librairies non confessionnelles en ont vendu beaucoup, semble-t-il. C'est ce qu'on a appris ce matin au CERF avec Guillaume Badi. Voilà.
Alors, je regarde l'heure et je vais faire quelque chose d'un peu inédit pour moi, un exercice de présentation des volumes différent de ce que j'ai fait déjà dans le bulletin des Amis de Sources Chrétiennes que vous pouvez trouver en ligne sur notre site, que vous pouvez recevoir quand vous êtes adhérent de l'association notamment. Voilà. Et traditionnellement, il y a une présentation de chacune des nouveautés de la collection. Donc là, je vais devoir faire différent, c'est un challenge. Et ce que je vous propose, c'est, ce sont quelques aperçus sur des passages précis de chacun des 7 autres volumes, puisque 8 sont parus. Alors, que j'arrive à... Voilà. Alors, je commence par Athanase, en répondant tout de suite à la question que vous vous posiez, mais pourquoi ont-ils publié le 600 avant les 598 et 599 ? Je l'ai dit quand même l'an dernier, lorsque le 600 a été présenté, ici même. C'est le décès du traducteur principal, à savoir Charles Canengisser, qui, pour des raisons juridiques, nous a obligés à repousser la parution de ces deux volumes, puisque donc les traités contre les Ariens sont en deux volumes, donc le 598 avec l'introduction et le traité 1, et puis 599 avec les traités 2 et 3. Alors voilà, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette œuvre absolument centrale pour le développement de la doctrine christologique et triadologique au IVe siècle. C'est vraiment la première grande réponse systématique à l'arianisme, qui plus est sous la plume d'Athanase. Alors, je vais simplement donner un passage, ou deux. Alors là, vous ne pouvez pas voir, je pense que c'est trop petit. Mais vous aurez peut-être reconnu de très très loin le son de la chanson. La chanson, c'est la Thalie de Darius. Vous savez, il avait mis en chanson sa théologie et il la faisait réciter à travers les rues d'Alexandrie. Et nous la connaissons grâce à qui ? Grâce à Athanase, notamment dans au début du traité contre les Ariens, puisque le premier traité s'occupe en grande partie à l'exposé de la thèse des thèses ariennes. Et alors, la traduction de cette chanson, voilà, je pense qu'elle était vraiment difficile, et je vous donne simplement un petit aperçu. Dieu n'était pas père depuis toujours. Alors, au début, on avait traduit Dieu n'était pas père, n'était pas toujours père. Ça veut dire quoi ? C'est un courant alternatif, il est père, le lendemain il est pas père. Donc j'ai voulu ajouter depuis toujours pour marquer qu'il s'agissait d'une la question du commencement. Mais il y eut une fois où Dieu était seul. Alors au début c'était évidemment il était une fois. Alors vous savez c'est vraiment un casse-tête parce que en grec on a comme vous le voyez peut-être en hoté. Donc il y a cette temporalité qui est bien dans le grec. Mais Arius lui-même proteste lorsqu'on dit « Oui, vous mettez Dieu dans le temps en insérant ce hoté. » Et Arius disait « Non, il ne faut pas l'interpréter de manière temporelle. C'est plus subtil que ça. » Et donc, on ne pouvait pas dire « Il y eut un moment où il y eut un temps où Dieu était seul, par exemple. » Donc une fois, c'était relativement vague, ça allait bien. Mais alors évidemment, ça donnait « il était une fois ». Vous comprenez bien sûr le problème. Donc on s'est dit que le passé simple « il y eut une fois » pouvait aider à rendre cette expression. Donc « il y eut une fois où Dieu était seul, et il n'était pas encore père. Plus tard, il se trouva qu'il devint père. Le Fils n'était pas depuis toujours. Voilà, » c'est l'un des grands slogans d'Arius. Toute chose étant issue du néant, toutes étant des créatures et des produits du devenir, le Verbe de Dieu lui aussi est issu du néant, et il y eut une fois où il n'était pas. Voilà donc la grande formule qui résume sans doute l'essentiel de la pensée d'Arius. Il n'était pas avant de commencer à être, mais lui aussi eut un commencement de sa création. Donc vous voyez les difficultés qui se pose parce que il faut respecter la traduction aussi sur les centaines de pages de ces trois traités. Je passe à un autre passage. Alors, bien sûr, si je vous dis Proverbe 8:22, vous me dites, mais bien sûr, le Seigneur me créa principe en vue de ses œuvres. C'était un verset très connu, notamment grâce à Arius, il faut bien le dire, puisqu'il le mettait en avant. Il l'interprétait comme une parole de Jésus lui-même, du Christ. Donc, le Seigneur me créera, C'est le Christ qui le dit lui-même, donc le Christ est une, le Fils est une créature. Réponse d'Athanase, et alors cette réponse est absolument magistrale. Mais je voudrais, avant qu'on l'étudie, que vous vous rappeliez le credo que beaucoup de gens récitent chaque dimanche. Donc le Fils engendré, non pas créé. Voilà. Est-ce que vous aviez réfléchi à ça? Et peut-être que le Proverbe 8:22, vous n'avez pas saisi l'esprit aussi vivement que ce soir. Comment interpréter le Seigneur Mokréa si on pense que c'est vraiment le Fils qui parle dans les Proverbes? Eh bien, voici la réponse d'Athanase qui a fait date pour, j'allais dire, les siècles des siècles. Je commence au début du... Donc livre 2, paragraphe 80. Si la sagesse de Dieu, véritable et productrice, son verbe monogène, revendique pour elle-même ce qui est propre à son image, le Seigneur me créa en vue de ses œuvres, que personne, faisant l'impasse sur celle qui est incluse dans la création du monde et des œuvres, ne pense que c'est à propos de l'essence de la sagesse subsistante qui est dit « il me créa ». Pour ne pas paraître, en mélangeant le vin avec de l'eau, tricher avec la vérité. Donc là, il maintient le fait qu'il s'agit bien de la sagesse qui parle, de la sagesse divine, mais pas forcément dans son caractère divin. Et je passe à l'autre page. Il dit « avant les âges, il m'a fondé, car en son empreinte, les œuvres demeurent solides et pour toujours. En outre, pour que personne, entendant parler de la sagesse ainsi créée dans les œuvres, ne pense que la véritable sagesse de Dieu, le Fils, est une créature par nature, il est obligé d'ajouter « avant les montagnes, avant la terre, avant les eaux, avant les collines, il m'engendre ». Non pas « il m'a créé » ou « il me créa », mais « il m'engendre ». Afin qu'en disant « avant toute la création », car il inclut toute la création dans ce qu'il a dit, il montre bien qu'il n'a pas été créé selon l'essence, conjointement avec les œuvres. Si donc il a été créé en vue des œuvres, et existe avant les œuvres, il est clair qu'avant d'avoir été créé, il est. Il n'est donc pas une créature par nature et selon l'essence, mais comme lui-même l'a ajouté, un engendré. Donc vous avez ici une justification de ce que vous trouvez dans le credo de Nicée, engendré, non pas créé. Mais vous voyez qu'il s'agit dans le credo de ce qui concerne le Fils en tant que Dieu, et non pas le Fils en tant qu'homme. Et là, vous avez, j'ai oublié de le préciser, Athanase distingue le proverbe 8:22, verset 22, du verset 25, « Il m'engendre ».« Il m'engendre », c'est la génération éternelle, concernant le Fils dans sa divinité. « Il me créa », c'est l'incarnation. Voilà. Et cette distinction est, a été la réponse, une réponse majeure. Vous voyez sur le terrain biblique, là encore, qui est beaucoup plus important, beaucoup plus manifeste que dans le De Anima de Tertullien. Vous voyez aussi que c'est une langue qui n'est pas tout à fait facile, avec une technicité assez importante. Je passe en prenant numéro par numéro les publications, même si dans l'année ça ne sort pas toujours dans l'ordre. Donc le commentaire sur Daniel de Jérôme. Vous connaissez déjà par cœur le commentaire d'Hippolyte, numéro 14 de la collection. Et vous attendiez enfin le commentaire de Jérôme, qui plus est par Régis Courtrai, qui avait déjà publié sa thèse sur ce texte. Alors c'est un texte vraiment très intéressant et à plusieurs titres. Je citerai simplement en passant l'un des intérêts, c'est la façon dont il divise le livre de Daniel. Et là, vous avez sur la page de gauche la structure du commentaire qui divise l'ensemble du livre en visions. Et j'ai eu l'occasion d'étudier la tradition manuscrite, y compris en grec, du livre de Daniel. Et c'est bien quelque chose de très ancien, cette division, alors en 12 visions, intégrant ou non ce que Jérôme appelle les fables de Suzanne et de Belle. Donc ce qui, dans les Bibles catholiques, se présente comme les chapitres 13 et 14 du prophète. Voilà, je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les variations qu'on peut avoir sur le thème, sur la structure en 12 visions ou en chapitres, mais c'est l'un des intérêts de ce commentaire qui se déploie donc en 10 visions plus Suzanne et Belle. Donc vous avez une façon de se référer au livre de Daniel qui est spécifique pour ce commentaire. L'autre intérêt, c'est sur la page de droite, c'est tout à fait le début qui vous donne un petit peu le ton. Contre le prophète Daniel, Porphyre écrit son 12e livre. Il n'admet pas que l'ouvrage ait été composé par celui-là même qui lui a donné son nom. Mais il aurait été par un homme qui, au temps d'Antiochos, appelé Épiphane, aurait vécu en Judée. Et ce ne serait pas tant Daniel qui aurait prédit l'avenir que cet homme qui aurait raconté des événements passés. En effet, pour lui, tout ce qu'il a dit jusqu'à Antiochos contient la vérité historique, mais ce qu'il a conjecturé au-delà est mensonge parce qu'il n'a pas connu les événements futurs. À cet homme ont répondu, avec beaucoup d'habileté, l'évêque Eusèbe de Césarée, en 3 volumes, le 18e, le 19e et le 20e, Apollinaire aussi, en un gros livre, le 26e, et avant eux, pour une part, Méthode. Plusieurs points intéressants dans ces quelques lignes qui commencent, vous voyez le commentaire, qui inaugure le commentaire. C'est donc une charge contre Porphyre, le païen antichrétien. Et un exégète finalement pas si mauvais, puisque les exégètes d'aujourd'hui pensent bien effectivement que Daniel s'inspire de la situation contemporaine d'Antiochus Épiphane pour décrire des événements qui pour lui se concernent l'eschatologie, la fin des temps. Donc, d'une certaine façon, Porphyre n'a pas tort, et d'une certaine façon, on se sent peut-être plus proche de lui que de Jérôme en lisant Daniel. Peu importe. Ce qui est aussi intéressant, c'est le fait que Jérôme, dans son commentaire, nous permette de mieux connaître le travail de Porphyre, et de même de mieux connaître ce qu'on connaît trop mal d'Eusèbe de Césarée, d'une part, d'Apollinaire. Alors ici, vous voyez, Apollinaire, il y a bien un L. C'est moi le responsable. Si vous voulez blâmer quelqu'un, c'est moi. Vous savez peut-être que dans tous les manuscrits grecs, il n'y a jamais deux lambda. Il y a toujours un seul lambda, et Apollinaire, Apollinarisme, etc. Normalement, il devrait y avoir qu'un seul L. Et en latin, il y a bien deux L. Donc, voilà, juste pour embêter tout le monde, j'oblige tous les auteurs et les pauvres, et voilà, ils s'exécutent, à mettre un seul L à Apollinaire et Apollinarisme. Bon, peu importe. C'est pas vraiment l'intérêt principal de ce volume, je vous rassure. Et puis donc Méthode, qui a également écrit contre Porphyre. Encore un intérêt littéraire, c'est que Jérôme réutilise les livres 9 et 10 des stromates d'Origène, et donc ouvrage perdu, voilà, dont vous avez des traces pas très faciles à voir, parfois très littérales, hein, il y a des passages entiers qui sont livrés par Jérôme. Voilà, sur les secrets de la fin des temps, je mets un voile pudique, mais je sais très bien que vous allez vous jeter sur le livre pour en savoir plus à ce sujet. Je passe assez rapidement maintenant sur le tome 603 de la collection, qui est le tome 3 du commentaire sur les psaumes d'Hilaire de Poitiers, psaume 62-66, par les bons soins de Patrick Descourtieux. Alors, c'est un commentaire très important parce qu'il dépend en partie d'Origène. C'est le seul qui, pour l'instant, alors il n'est pas complet puisqu'on a une cinquantaine de psaumes qui sont conservés ce qui devait être complet sous la plume d'Hilaire. Là, vous avez une poignée de psaumes, de supplications, mais aussi de louanges, et avec une clé de lecture qui me paraît intéressante. Alors, j'ai choisi déjà une pour pour commencer une expression très, très nette, il me semble, la prière est moins une affaire de mots que de sentiments. Et Hilaire continue, chacun a l'esprit porté par un instinct, pour ainsi dire, naturel vers la connaissance et l'espérance de l'éternité. En effet, l'idée que nos âmes sont d'origine divine est pratiquement innée et imprimée en tous. L'esprit lui-même sait qu'il possède avec le ciel une affinité non négligeable. Alors, je ne sais pas si ça complète ce que disait Tertullien. Vous voyez que la perspective est bien différente, mais voilà, cette soif de l'âme, c'est pas quelque chose de contingent comme la soif du corps. Ça, c'est la révélation en réalité de sa nature profonde qui est l'imitation, la ressemblance à Dieu. Alors j'en viens à un point plus intéressant peut-être sur la clé d'interprétation des psaumes. Plusieurs, je l'ai rappelé, donc écrit Hilaire, pensent que tous les mots du livre des psaumes sont à rapporter à la personne du Fils. Du Fils unique de Dieu, notre Seigneur, et que son contenu s'applique exclusivement à lui. On ne peut critiquer leur opinion, car toutes ces explications viennent d'une âme douée de sens religieux. Il n'y a pas de faute à tout rapporter à celui par qui tout a été fait, en s'y appliquant de toutes ses forces. Malgré une mise en œuvre parfois maladroite, le fait de tout mettre en rapport avec lui doit nécessairement conduire à lui attribuer ce qui lui est propre d'une manière vraiment fiable. Là, on se dit, mais il veut pas rapporter forcément au Christ toutes les paroles du psaume. Non, il s'agit de rapporter au Christ suivant qu'il est Dieu ou bien homme. Et là, c'est pas la même chose. Toutefois, si nous pensons que tout le concerne indistinctement, c'est bien ça le problème, l'application rigoureuse de ce principe ne doit jamais rien retirer à la dignité de sa divinité, au mystère de son incarnation, au pouvoir de son activité, à la puissance de sa passion et à la gloire de sa résurrection. Donc on a déjà, vous voyez, vers les années 360, l'application d'un principe exégétique qui va être extrêmement important au 5e siècle, à savoir, attention, dans les évangiles, qu'est-ce qui a trait à la divinité du Christ, qu'est-ce qui a trait à son humanité, dans l'unique personne du Fils, évidemment. Et puis une conclusion assez intéressante sur une réflexion sur ce que c'est que la prophétie dans les psaumes. Il faut donc garder la mesure, continue Hilaire, et établir avec ardeur et prudence le contenu des prophéties sur sa naissance divine reçue du Père, savoir quand il est question de la personne de l'homme qu'il a assumé, voir les passages qui parlent de son ministère, de sa passion, de sa résurrection, mais aussi ce qui convient à chaque période, l'annonce de la foi aux nations, la critique des péchés du premier peuple, l'enseignement de la crainte de Dieu et la formation à sa louange par la voix du prophète. Telle est la logique d'une prophétie inspirée par l'esprit, c'est-à-dire la formation à sa louange par la voix du prophète. Mais si on comprend que la voix du prophète est celle du Christ lui-même, le fait de réciter les psaumes, ce n'est pas simplement accueillir la voix du Fils en soi, c'est se laisser former à l'image du Fils à travers les mots du prophète. Telle est la logique d'une prophétie inspirée par l'Esprit. Parler du Seigneur, c'est faire progresser une science qui est utile à la foi. Si nous apprenons à le craindre, à le louer, nous sommes formés pour le Seigneur, nous progressons et nous sommes acquis par lui. Voilà. Donc voilà, quand vous psalmodiez, ça n'est pas une action indifférente. Un intrus, ou un petit nouveau dans la collection, c'est rien de le dire, c'est carrément un texte inédit découvert très récemment en 2017 à la bibliothèque universitaire de Montpellier. Timothée, vous ne le connaissez donc pas encore, et c'est normal. Donc on doit à Pierre Chambert-Prota et à Camille Gerzaguet, deux jeunes collègues, la découverte et l'édition de ce texte, Lettre sur la Pâque. Alors, qui est ce Timothée? Donc c'est sans doute au début du 4e siècle, dans la première moitié du 4e siècle, l'un des signataires du Concile de Nicée, donc de 325. C'est peut-être l'un des signataires qui est dit Timothée, évêque de Kibistra. Alors Kibistra, tout de suite, ça fait tilt. Et probablement pour ceux qui ont des doutes, vous voyez un petit peu au nord-ouest d'Antioche, vous voyez Césarée, Nazianze, Tyane et Kibistra un petit peu en dessous, voilà, en partie orientale de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Donc ce Timothée a écrit en grec, mais sa lettre sur la Pâque a été traduite en latin à une époque suffisamment haute pour que rien moins que saint Augustin en fasse usage dans son livre des sentences. Et donc c'est un témoignage très important d'Augustin sur le traité qui atteste son ancienneté, son authenticité. Et d'autre part, c'est un très bon témoin aussi pour le texte de saint Augustin. François Dolbeau ne s'y est pas trompé. Alors, quel est l'intérêt de cet ouvrage se place très vraisemblablement avant le Concile de Nicée? Vous savez que le Concile de Nicée a favorisé l'unification de la pratique de la date de Pâques, non pas au 14e jour du mois de Nissan comme les Juifs, mais le dimanche après la Pâque juive. Alors, cet usage avait été toujours assez divers et Polycarpe, Irénée avaient œuvré pour garder la diversité des usages sans que cela mette en cause l'unité de l'Église. Eh bien, au IVe siècle, la situation était un petit peu différente et plus tendue, et Timothée s'en prend à plusieurs positions alternatives, selon lui coupables, plusieurs pratiques, dont une qu'on ne connaissait pas encore, notamment celle qui distingue la Pâque, c'est-à-dire concrètement la scène, de la mémoire de la résurrection. Donc nous, on associe forcément Pâque et résurrection, et là, c'était dissocié. Voilà, donc évidemment, Timothée s'en prend bien sûr au quarto décimant, qui s'en tiennent au 14 Nissan, comme les Juifs. Dans le début de son ouvrage, c'est vraiment le principal, c'est de distinguer la Pâque juive de la Pâque chrétienne. Et il fait une sorte de préambule global avec cette page que je vous ai choisie. Donc ma fonction et la foi de la charge qui m'incombe me presse, quoique vous courriez déjà, à vous aiguillonner par de fréquentes lettres, à vous exhorter comme si j'étais équipé d'éperons, pour que vous ne vous contentiez pas seulement de l'état où vous êtes dans la foi, mais n'en fassiez que plus sûrement encore de véritables progrès dans celle-ci. Car le terme de la félicité qui nous est promise ne connaît pas de bornes. Nul ne peut se contenter de l'état de la foi, de sa foi. Au contraire, l'exigence de la foi, c'est toujours, pour ainsi dire, de s'accroître et de bâtir plus haut son fait, car elle est sans entrave. Un texte absolument magnifique, je trouve. Et on se dit, mais bien sûr, Timothée est un progressiste échevelé. Et on continue le texte. Ainsi, à la règle de foi, à l'ordre des sacrements, à la tradition des apôtres, à la vérité inaltérée des évangiles, il n'y a rien à ajouter, puisque de toute façon, il n'y a rien à changer. Il est dangereux, en effet, que les choses divines soient perturbées, et tout ce que l'on change après qu'il a été organisé au mieux, empire, car aussitôt s'ensuivent la fatale hérésie et l'erreur néfaste, et tout ce qui peut contribuer avec force à la ruine de l'âme se rassemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Le progrès de la foi, c'est de rester fidèle de manière inchangée à la foi, à la tradition de l'Église. Et donc, à la date de Pâques, qui pour lui est absolument sans ambiguïté dans l'Église, n'en déplaise. Alors, finalement, il traite d'hérésie gentiment Irénée, par exemple, ou Polycarpe. Un peu tardivement, mais voilà, le jugement de Timothée est quand même assez vigoureux. Voilà, c'est pas un texte indifférent, comme vous le voyez. Il illustre très bien, en tout cas, la façon dont la date de Pâques a vraiment tourmenté l'Église à époque ancienne et même pendant plusieurs siècles. J'en viens au volume 606, qui est un choix de texte de Grégoire de Nice. Donc, trois oraisons funèbres, Mélès, Flaquilla et Pulchéri, et puis le petit traité sur les amphores morts prématurément. Donc, quatre textes en tout qui sont traduits, annotés, introduits par Pierre Maraval qui avait déjà, il y a 2 ans, présenté un précédent volume de Grégoire de Nice. Alors, je vais peut-être pas m'attarder sur Grégoire de Nice et sur les éloges de Mélès, hein, mort en plein concile de Constantinople en 381. Grégoire de Nice, qui était un évêque en vue à la cour impériale, est celui qui est choisi pour prononcer son éloge funèbre, c'est ce qui n'est pas rien. C'est très amusant, d'une certaine façon, de voir qu'il présente Mélès comme un modèle de l'orthodoxie. Si on connaît un petit peu l'histoire doctrinale des années 70, disons, présenter celui qui a été élu par des Ariens, ensuite avant d'être rejeté par les Ariens, mais sans jamais être accepté ensuite par les Nicéens, c'est assez assez intéressant de voir son adoubement, en quelque sorte, sa reconnaissance, même posthume, par quelqu'un comme Grégoire de Nice, voilà, au rang des Nicéens les plus purs. Alors, peut-être que vous connaissez ce fameux petit traité sur les enfants morts prématurément. C'est vraiment un problème très difficile, hein, c'est le problème du mal, comme pourquoi il y en a qui, pourquoi il y a des méchants qui meurent, pourquoi il y a des enfants qui, pourquoi il y a des innocents qui meurent, et qu'est-ce qu'ils deviennent. Alors on peut apprécier ou pas, alors il y a des vues théologiques très très magnifiques, hein, sur le progrès infini de l'âme, qu'elle soit celle d'un petit enfant ou bien celle d'un vieil homme, après la mort. Le progrès en Dieu est infini, la capacité du petit enfant qui ne s'est pas beaucoup développé pendant la vie peut continuer après la mort. Et donc finalement, même s'il y a un malheur précoce, il peut y avoir une béatitude anticipée d'une certaine façon. Les petits-enfants peuvent bénéficier, plutôt finalement que les autres, du bonheur de la vie future. Alors cet argument peut ou pas convaincre, mais là je voulais vous donner un aperçu de l'un des passages assez célèbres, je crois, qui ont été supprimés, une censure qui s'est exercée sur les écrits de Grégoire de Nice lorsqu'il s'agissait, donc Marie-Hélène Congourdeau au fond de la salle sourit parce qu'elle connaît bien la question. Ce sont des passages qui contiennent la doctrine dite de l'apocatastase, ou de le retour de l'ensemble de la création, y compris le diable ou les âmes mauvaises, dans leur état originel qui est dans le salut finalement. Alors, je lis ce passage. Vous voyez à peu près au milieu, il y a un petit chevron qui indique le début. À propos de ceux qui sont morts après avoir vécu très longtemps dans le mal, nous dirons que l'économie divine de Dieu ne se manifeste pas moins même dans ces gens-là. En gros, comment Dieu a pu laisser vivre des gens mauvais comme ça. Pour qui considère la puissance divine, il est tout à fait clair qu'elle peut le rendre au plérôme des sauvés, la plénitude des sauvés, durant de longues révolutions du temps, par une éternelle purification, celui qui est allé jusqu'à ce degré de méchanceté. Car lorsqu'il voit les autres actions de Dieu, toutes celles qu'il accomplit par la surabondance de sa puissance et un simple mouvement de sa volonté, qui peut être à ce point ignorant de la nature divine pour penser qu'il n'a pas pu agir en cela seulement? Si l'on veut réfléchir de manière humaine, on trouvera qu'il est plus difficile d'amener du non-être à l'existence, le ciel et la terre et toute la beauté qui se trouve en eux, que de ramener à la vie, selon la nature, l'âme qui était égarée par le mal. De sorte que la volonté qui aime les hommes ne peut être inactive, même dans ces cas-là. La persistance de la vie dans le péché chez celui-là ne tire pas son origine de Dieu, car il a reçu la faculté de vivre de celui qui a créé la vie. Mais c'est son propre choix, qui n'avait pas de tendance pour cela, qui a pris l'initiative de mal vivre. Et l'homme n'est pas entièrement dans le mal. Le mal n'a pas d'existence propre, c'est une thèse importante de Grégoire de Nice. Il n'a pas été créé dans le choix de celui qui vit mal. Si donc Dieu n'est pas la cause du mal qui est présent dans un homme, on ne peut plus, à bon droit, lui rapporter la cause de la vie de ces méchants dans le mal. Voilà. Donc il n'y a pas que l'exposé de l'apocatastase, il y a bien sûr la justification de du mal fait par ces personnes. Voilà, on complète petit à petit les ouvrages assez importants de Grégoire Denis sur les questions de la résurrection, sur les questions de la mort. Un dernier livre sur l'un de vos futurs favoris, donc Liberatus de Carthage. C'est un plaisir de pouvoir mieux faire connaître des auteurs de premier plan, j'ose le dire, qui, à défaut d'être connus dans une traduction moderne, peuvent rester trop méconnus. Et donc, Liberatus de Carthage est un diacre qui a vécu dans la première moitié du VIe siècle. Et son abrégé de l'histoire des Nestoriens et des Eutychiens est une source de premier plan pour connaître la période qui va de 428, à savoir le début de la prédication de Nestorius, jusqu'à 544, à savoir le premier édit de Justinien, contre ce qu'on appelle les trois chapitres, à savoir les positions théologiques de Théodore de Maupuès, de Théodore et de Cyr, et d'Ibas d'Édesse. Justinien, donc en 544, a suscité une réaction très forte de différentes parts de l'Empire et de plusieurs églises, dont l'Église d'Afrique, qui a continué à défendre non pas Nestorius, mais ces auteurs-là. Vous connaissez peut-être l'histoire aussi du pape Vigile, qui a commencé par résister à Justinien, puis qui a connu ses foudres, a fini par céder. Finalement, il a pu revenir sur sa propre signature, voilà, sous condition. Une histoire complexe, je vous le cache pas, mais précisément, si nous la connaissons, c'est aussi grâce à ce Liberatus qui donc a fait cet abrégé quand même en 120 pages. Je vous laisse juger de le caractère abrégé de l'œuvre. Je vais donner simplement un exemple de la façon dont Liberatus a travaillé. Il veut se placer lui-même dans la continuité des histoires ecclésiastiques de Zeb, mais pas seulement. Alors, que je retrouve la bonne page parce que je me suis perdu. Voilà. Donc c'est le pro-M que je vais vous mettre à peu près sous les yeux, même si c'est un peu lointain. Donc c'est le tout début. Épuisé par les difficultés du voyage et l'esprit relativement dégagé des soucis du temps, j'ai composé cette brève histoire des deux hérésies, à savoir celle des Nestoriens et celle des Eutychiens, en empruntant à une histoire ecclésiastique récemment traduite du grec en latin. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'Historia Tripartita, à savoir une sélection des histoires ecclésiastiques de Zèbes, de Sozomène et de Socrate. De Socrate et Théodorée. Et donc c'est une version latine sélective, donc qui date du début du VIe siècle. J'y associais cette série d'événements que j'ai recueillis dans un écrit grec d'Alexandrie ou que j'ai apprise par le récit digne de foi des hommes les plus sérieux. Liberatus est un témoin lui-même contemporain des faits. Je l'ai fait pour ma propre information et en vue de répondre aux pourvoyeurs de mensonges de chacun des deux parties que leurs ailes portent habituellement à affirmer sur le compte de leur garant autre chose que le contenu véritable des faits. J'offre volontiers l'ouvrage aux frères catholiques qui, dans l'ignorance relativement à ces hérésies, désirent en lire l'histoire. Donc on a déjà du mal à suivre l'histoire, nous, 15 siècles plus tard. C'était déjà le cas, je sais pas si c'est rassurant, au VIe siècle. Et donc il présente Paul de Samosate comme le véritable initiateur de l'hérésie de Nestorius. Ainsi donc, beaucoup veulent reconnaître le fondateur de la doctrine nestorienne dans Paul, évêque de Samosate, condamné en 268 ou 269 déjà, qui affirma que notre Seigneur Jésus-Christ est né et a souffert simplement en tant qu'homme. Tandis que sur la sainte et très bienheureuse Trinité, il se faisait, disent les Grecs, le disciple de la position de Sabellius qui mêlait les trois personnes sous la forme du modalisme. C'est pourquoi, selon ces mêmes Grecs, le Concile de Nicée a décidé qu'il fallait absolument rebaptiser les Pauliniens, avec cette différence entre la doctrine de Paul et celle de Nestorius, que Nestorius, confessant l'existence de la divinité du Fils de Dieu, croyait le Christ conçu et formé simplement en tant qu'homme, puis ensuite promu à la divinité, c'est-à-dire homme déifié, et non verbe fait chair qui habitait parmi nous, ce que prêche l'Évangile et que confesse l'Église catholique. C'est pourquoi, dans son épitomie des chroniques, Lucentius soutient cela et dit « Sous le consulat de Félix et de Taurus, Nestorius, évêque de Constantinople, entreprend d'introduire une nouvelle erreur dans les églises prêchant que le Christ est homme seulement, qu'il n'est pas également Dieu de naissance et que la divinité lui a été conférée à proportion de son mérite. » Est-ce que vous êtes d'accord? Mais non, vous protestez, c'est pas du tout ça la doctrine de Nestorius. Et là, nous avons déjà un témoignage très net de toutes les erreurs qui pouvaient se répandre à l'époque sur l'affreux Nestorius. Et donc, sur l'affreux, le non moins affreux Théodoré, etc. Vous voyez? Donc là, c'est un premier intérêt de ce texte. Et puis le deuxième, c'est ce qu'il ajoute, mais dans un livre de l'histoire ecclésiastique, Socrate sépare Nestorius de Paul et caractérise ainsi leurs différences. Il apparaît, dit-il, que Nestorius ignorait les leçons des anciens, c'est pour soi. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, il s'est arrêté à la seule expression, et non seulement il a soumis cette expression à examen, mais il a nié catégoriquement que fut Dieu celui qui est né. Nous, en revanche, nous confessons que celui qui est né de la Vierge Sainte est Seigneur de gloire, comme le dit l'apôtre. En outre, Nestorius dit, veuille ne pas te glorifier, juif, tu n'as pas crucifié Dieu, comme si le Seigneur de gloire lui-même n'était pas Dieu. Car les homélies qu'il a composées montrent encore qu'il ne dit pas que le Christ est un homme, simplement, comme le disent Photin et Paul de Samosate. Nulle part, en effet, il ne supprime la substance de Dieu, le Verbe, et partout il confesse que Dieu, le Verbe, subsiste et qu'il possède une substance, et selon non pas comme Photin et Paul de Samosate, qui supprime sa subsistance. J'ai parlé peut-être un petit peu vite, mais vous voyez l'idée générale. Nestorius ne nie pas la divinité du Fils en tant que Verbe. Il nie le fait qu'on puisse dire que le Dieu Verbe, que la divinité puisse naître. Tels sont donc, continue notre Liberatus, les propos de Socrate sur Paul et Nestorius. En utilisant son témoignage, je poursuivrai sur la base d'un autre passage. Et alors là, on cherche, je vous assure que les spécialistes depuis des siècles ont cherché dans Socrate, ils n'ont pas trouvé. Donc c'est peut-être soit quelque chose qui n'est pas vraiment de Socrate et qui est connu par Liberatus par un autre biais, soit c'est vraiment une version alternative d'un passage de Socrate. Dans son ignorance de ce qu'ont proclamé les saints-pères dans leurs commentaires exégétiques, à savoir que le Fils de Dieu, par l'union de sa propre nature divine en une personne qu'il n'a pas en commun avec le Père, a pris la condition d'homme, Nestorius n'a pas voulu déclarer mère de Dieu la bienheureuse Marie, étant donné que la nature du Père et du Fils est indivise et inséparable, de peur de soumettre le Père à une naissance, etc. Et là, c'est vraiment ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on apprend ici même, je pense, quand on parle de Nestorius, c'est vraiment tout à fait ça, la doctrine telle qu'on la retient de Nestorius. Eh bien, Liberatus, c'est grâce à Liberatus, en quelque sorte, que nous pouvons vraiment le dire avec plus de facilité, parce qu'il a fait lui-même le travail critique concernant Nestorius. Voilà, donc j'ai lu ici la traduction de François Cassagena, et le volume par ailleurs est dû au travail extraordinaire de Philippe Blaudeau. Alors, le retour, donc je ne veux pas trop prolonger, simplement vous donner un aperçu de quelque chose qui est une sorte de planning très évanescent. Je ne suis pas du tout sûr que ce que vous verrez paraître dans l'année 2020 correspondra à ce que vous avez sous les yeux, à savoir le commentaire sur les psaumes, tome 4, c'est certain. Le stromate 3, c'est la fin des stromates. Bon, le stromate 8, il est à part. Hein. C'est la fin des stromates depuis 50 ans, voilà, ou 70 ans quasiment. Et ça, c'est vraiment prévu pour mars-avril. Les actes et passions des martyrs militaires africains, c'est certain. Les homélies 1 à 5 sur le cantique de Grégoire de Nice par Mariette Canévet et Françoise Vinel, ça c'est très attendu, évidemment. La vie de Sainte-Geneviève, alors ici à Paris, ça va être l'année Geneviève, il va falloir absolument la vie de Sainte-Geneviève. La vie de Simon Mélon, le styliste non moins, c'est pas Dominique Gonnet qui va me contredire. Le tome 2 du commentaire sur le cantique par Neil Dancyre, voilà, on l'attend depuis pas mal de temps, je pense. Le registre des lettres, un autre tome donc de Grégoire le Grand. Voilà, le reste, je peux pas être sûr de tout ce qui pourra paraître, mais voilà, j'espère que vous serez là l'an prochain pour vérifier si j'ai dit vrai. J'en profite pour vous remercier en tout premier lieu d'avoir été là jusqu'à une heure tardive et malgré les conditions. Vraiment, je vois ici des visages chaque année qui reviennent fidèlement. C'est vraiment un encouragement très fort pour nous pour continuer notre travail. Je remercie Isabelle Vaucher, bien sûr, Michel Fédou et Centre Sèvres de nous accueillir une fois de plus. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux conclure.
Conclure et en remerciant Paul Mattei. qui peut-être nous écoutera, puisque on ne sait jamais, et même en remerciant bien sûr Laetitia pour sa contribution et son éclairage pour du De Anima de Tertullien, et en me réjouissant de la belle présentation que nous a proposée Guillaume et des beaux projets qui nous attendent et que nous espérons tout à fait pour l'année 2020. Un très grand merci à vous tous.
Je voulais simplement signaler que ce tableau Source chrétienne est l'œuvre de Guillaume aussi, et c'est l'occasion aussi de rappeler donc que l'association vous attend, mais je crois que la plupart d'entre vous en partie. Donc il y a un site où on peut s'inscrire, sourcechrétienne.net, qui est un site complémentaire du site officiel. Voilà. Merci à tous et merci pour votre courage.